Vous êtes sur RTL.
Allez, on va accueillir maintenant Sophie. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue.
Merci, merci beaucoup.
Vous avez une voix toute douce.
Oui, c'est ce qu'on dit souvent.
Ah oui, ça ne m'étonne pas.
Voilà, écoutez, moi je vous appelle parce que je vous avais appelé en mai de l'année dernière en fait. Donc je suis maman de 3 garçons et j'ai subi un braquage en armée il y a quelques années.
Ah oui, je me souviens de vous. Oui.
Ouais.
Bah oui, parce que heureusement, ça arrive pas souvent.
Oui, tout à fait. Et donc en fait, j'avais entendu le témoignage de Daniel.
Ah ben oui.
La semaine dernière.
Oui, il est passé Daniel jeudi dernier, je crois. Ben Daniel, ouais. C'était ce monsieur donc qui avait pris perpète pour un braquage, oui, qui avait mal tourné et qui est sorti aujourd'hui parce que qui nous parlait des conditions de sa sortie et de sa réinsertion et où on avait appris beaucoup de choses parce que comment ça se passait quand on a fait il avait fait 30 ans centrale.
Oui, tout à fait.
Alors, j'ose pas vous demander parce qu'évidemment on a l'autre versant, ce que vous l'avez écouté alors, jusqu'au bout, Daniel, ou vous avez eu envie d'éteindre la radio, peut-être à ce moment-là, j'aurais compris.
J'ai écouté et donc le but de mon appel aujourd'hui, c'est vraiment pour témoigner de ce que j'ai ressenti.
Oui.
Et de ce que j'ai pu. Et c'était important aussi pour moi de pouvoir réagir par rapport à ça parce que au final, donc moi, voilà, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai entendu les premières minutes du témoignage
de Daniel,
c'est vrai que ça m'a pris aux tripes. Oui, tout à fait. Ça m'a pris aux tripes et j'ai eu une réaction. Ça m'a renvoyé à ce que j'avais vécu en fait. Et en l'écoutant, je me suis dit voilà, il y a un parallèle entre ce que lui a vécu en prison et moi en tant que victime, c'est-à-dire que j'étais pas en prison, mais emprisonnée par la maladie du syndrome post-traumatique qui a découlé sur une grave dépression. Donc il y a la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'était également par rapport au travail où lui en tant que personne sortant de prison, il a dû montrer patte blanche. Moi, de mon côté, en tant que victime, j'ai aussi dû montrer patte blanche et même, je vais dire, prouver que j'étais capable de réussir. Ça a été un combat même avec les gens qui s'occupaient de moi parce que j'étais en invalidité et en tant que travailleur handicapé, mais je rentrais dans aucune case en fait.
C'est-à-dire que suite à ce braquage, parce que pour quand même qui a eu lieu en 2008, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc vous travailliez à ce moment-là dans une banque.
Oui.
On en avait parlé. Enfin, vous avez développé un syndrome post-traumatique très fort, une dépression très profonde.
Oui.
Et donc ça aboutit à ce que vous ayez un statut de travailleur handicapé.
Voilà, alors j'ai eu un statut de travailleur handicapé et j'ai également été mise en invalidité par la médecine du travail, en fait.
À quel âge ?
À 35 ans.
Oh là là.
À 35 ans. Donc, la médecine du travail, en fait, m'a proposé, entre guillemets, cette solution pour que je puisse avoir le temps de me reconstruire et de ne pas être... prise en fait par le temps des 2 ans Pôle emploi et après on doit retrouver un travail vraiment pour le temps de me reconstruire et ça a pris 5 ans 5 ans de ma vie.
C'est énorme. Comment allez-vous aujourd'hui?
Aujourd'hui je vais très bien, j'ai mon emploi.
Donc vous ne travaillez plus dans une banque?
Alors non, j'ai changé complètement et je travaille maintenant par téléphone. Et donc je me sens protégée. Et en fait, par rapport à tout ça, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi j'ai entrepris des démarches par rapport à la personne qui m'a braquée en fait.
Oui, parce que vous avez été braqué avec, je crois, enfin, un revolver pointé sur vous. Enfin, ouais. Vous avez pensé que vous alliez mourir.
Ah oui, mais clairement. Et j'ai vécu en fait pendant des années dans la colère vis-à-vis de cette personne en fait.
Oui.
Ben
oui.
Et je me suis dit, mais de quel droit on décide de la vie d'une personne comme ça en 5 minutes de temps Clairement, je ne savais pas. Pour moi, j'allais mourir ce jour-là.
Mais oui, oui.
Effectivement. Et donc, en fait, j'ai fait un long cheminement.
Oui.
J'ai beaucoup travaillé sur moi. Je suis encore sous traitement aujourd'hui. J'ai pu suivi parce que j'en ressens pas forcément le besoin, mais j'ai toujours ce traitement. Et par rapport à la période des 5 ans, là où j'ai commencé c'était en 2018, j'ai commencé à entreprendre des démarches pour retravailler. Et à cette époque-là, donc je vous dis, c'était très compliqué par rapport à toutes les personnes qui m'entouraient au niveau de Cap Emploi, parce que je dépendais de Cap Emploi en fait. Et donc j'ai trouvé ce travail par moi-même, mon travail par moi-même. Et quand j'ai signé, c'était un CDI. J'ai continué vraiment un cheminement. Et quand j'ai signé mon CDI, je suis arrivée à la fin de ma période d'essai. Il me manquait quelque chose. Il manquait le fait de dire à la personne qui m'a braqué, je vous pardonne. La boucle est
vous étiez
bouclée,
dans quoi. Cette vous à ce moment-là, il vous semblait que vous aviez besoin de pardonner.
Oui.
D'accord, c'était votre cheminement thérapeutique qui
C'était mon cheminement, alors personne n'est au courant.
Mais vous étiez allé, pardonnez-moi de vous poser la question, mais il y a eu un procès. Vous étiez présente dans les parties civiles, j'imagine, lors du procès.
Oui. Et en fait, je me suis adressée à mon agresseur, en fait. Alors à la base, c'était pas du tout prévu comme ça, mais je voulais exprimer à la cour, c'était en cour d'assises, et je voulais exprimer à la cour en fait où j'en étais. Parce que quand je parlais de prison, j'étais.
Mais c'était prison, toutes les conséquences, on le voit, ont été très lourdes, Sophie, dans votre vie. Il y avait un enfermement intérieur dont Daniel a parlé. Il a fait un parallèle entre ce qu'il écoutait, puisqu'il écoutait l'émission quand il était incarcéré. Il disait de façon assez juste qu'il ressentait, au fond, cet enfermement que lui vivait, il le ressentait chez certaines personnes. Il vous en parlait aussi très bien. À ce moment-là, lorsque vous étiez partie civile au procès, oui, à ce moment-là, vous n'étiez pas du tout dans la dimension du pardon. Vous aviez besoin, au contraire, d'expliquer ce que vous subissiez du fait de cette agression.
Oui, voilà. Et en fait, ce que s'est passé, c'est que donc je voulais m'adresser à la cour et en fait, je me suis retournée vers mon agresseur et je lui ai dit parce qu'en fait, pendant le procès, il y a eu des échanges entre lui, les questions que lui posait la cour, etc. Et je lui ai dit clairement, vous avez démoli ma vie. Aujourd'hui, oui, vous êtes en prison, mais moi aussi, je suis. Et j'ai vraiment réagi. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
Oui.
Et à mon grand étonnement, en fait, il s'est levé et il m'a regardé et il m'a dit je comprends et donc je m'excuse et je voudrais qu'on puisse correspondre. Vous voyez. Donc c'était inimaginable pour moi d'envisager ça.
Oui, je comprends.
Et au final, Donc quand j'ai reconstruit ma vie, donc je suis toute seule avec mes enfants, mais voilà, j'ai réussi à me sortir de tout ça. Et pour le coup, en fait, j'avais besoin, alors non pas de lui dire merci, mais de lui dire que j'avais, je voulais plus être dans la colère. Voilà, je voulais plus. Ça s'est passé et au final, j'ai donné du sens à tout ça. Et le fait d'avoir donné du sens à tout ça m'a permis de faire la paix avec moi, de faire la paix avec tout ce qui m'est arrivé et de me dire voilà, maintenant t'es plus forte, maintenant tu as traversé ça. Aujourd'hui t'en es là et si j'avais pas donné de sens à ce braquage, parce que moi j'ai des collègues qui m'ont dit mais ça n'aurait pas dû t'arriver à toi, c'est arrivé, c'était pas moi qui étais visée. Je l'ai compris aussi parce que au départ pareil, enfin j'avais peur que ce soit moi qui soit visée, mais c'était pas le cas. Et donc après j'ai fait mon cheminement et j'avais besoin de, alors pas correspondre, mais d'avoir déjà de savoir s'il avait été sincère au procès, quand il s'est excusé, de savoir s'il avait été sincère, et puis je lui ai écrit. Donc j'ai ça mis du temps pour écrire la lettre, et quand j'ai reçu sa réponse, je l'ai pas ouverte tout de suite. J'ai attendu deux mois pendant lesquels la lettre était sur la table. Et j'ai ouvert la lettre et il m'a expliqué que encore une fois il s'excusait, que il avait raté sa vie, qu'il avait fait les mauvais choix et que en aucun cas il me voulait du mal en fait, voilà, mais qu'il avait réalisé le mal qu'il m'avait fait.
Ça vous a fait du bien, cette lettre?
Oui. Alors par contre il m'a demandé de continuer les échanges, je le ferai pas.
Oui. Vous avez raison, je crois. Oui. Parce que vous aviez besoin, vous, pour trouver l'apaisement, en tout cas de sortir de la colère.
Oui.
Mais continuer un échange, c'est maintenir un lien qui vous maintient dans...
Voilà.
Dans, qui vous ramène, au fond, toujours à cela. Or, c'était vous pour avancer, finalement, pour clore quelque chose, semble-t-il.
Oui. Alors, c'est pour ça, ça peut paraître assez... assez bizarre de dire mais la lettre, le parallèle que je fais aussi avec entre l'agresseur et la victime en fait, mais au final il y a des choses qui se rejoignent et j'avais envie de partager ça avec vous et puis dire il faut prendre conscience que les personnes qui sont connectées notamment là dans le cas des braquages, il y a une démarche qui est faite, elles font les démarches aussi, enfin de ce que j'ai compris de Daniel, de ce que j'ai compris de la personne qui m'a agressée, il y a un moment donné où elles prennent conscience moi j'ai mis l'humain derrière tout ça, parce qu'avant c'était mon agresseur.
Bien sûr.
Aujourd'hui c'est l'homme qui m'a agressée en fait, voilà.
Il y a eu tout un cheminement pour cela. Avant, vous étiez dans l'acte commis, qui est d'une grande violence, et finalement, vous voyez que derrière cela, c'est un homme qui commet cet acte. Et finalement, vous êtes allé à la rencontre de cet homme-là. C'est là où vous parlez de pardon, même si.
Et puis en fait je vous dis, après j'en ai fait, enfin ça a été vrai, ça m'a donné énormément, donc tout chemin parcouru, le fait de donner un sens, ça m'a donné beaucoup de force. Par contre à aujourd'hui, j'en parle très facilement de mon histoire, et j'ai encore des personnes qui me conseillent de ne pas en parler.
Alors, pourquoi on vous conseille de ne pas en parler?
Parce que c'est des personnes bienveillantes qui m'ont dit ça, mais
de votre entourage proche?
Non, c'est des collègues de travail, même quand quand j'ai cherché le travail que j'ai actuellement, il y a eu un premier entretien et puis on m'a dit mais non, il faut pas parler de ça. Et...
Ah, mais ça je comprends.
Les collègues qui m'ont dit mais arrête de parler de ça parce que ça donne des armes. J'emploie le mot armes, mais des armes aux personnes qui ne veulent pas du bien pour te démolir, comme si c'était le braquage avait fait de moi quelqu'un de faible, de naïf, de...
Bah, c'est pas ce qu'on entend quand on vous écoute, là, Sophie. On n'entend pas quelqu'un de... ni de naïf, ni de faible. Quelqu'un qui a fait tout un cheminement, une réflexion très profonde... qui n'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de... Enfin, chacun avance comme il peut, après tout. Et des personnes ayant été victimes d'une agression, d'une grande violence, peuvent, et c'est tout à fait légitime, ne pas vouloir pardonner. Enfin, vous voyez, chacun... Chacun fait comme il peut. Mais là, si c'est dans le domaine professionnel, je comprends peut-être, pour peut-être pas trop vous exposer au fond.
Oui.
Vous voyez, dans le domaine professionnel, moi, on parle de soins intimement, souvent mieux c'est. C'est pour pas donner justement trop prise, finalement, à l'autre quand on n'est pas dans une relation d'intimité. C'est une protection.
Ça fait partie de mon histoire en fait, et c'est vrai que je vois. Enfin,
la vous voyez pas comment ne pas en parler.
Ben en fait c'est. C'est comme si je devais avoir honte de ça en fait, alors que les personnes qui m'alertent sur le fait que j'en parle assez facilement, c'est vraiment dans la bienveillance, quoi. C'est une bienveillance.
Oui, mais parce que, enfin, moi j'entends ce qu'elles vous disent.
Ouais.
C'est-à-dire que vous puissiez en parler et vous en parlez très bien. C'est d'ailleurs une auditrice, Brigitte, qui dit on voit que vous avez fait tout un chemin très humain. Elle dit c'est vrai que c'est un très beau témoignage et que c'est au fond, elle dit, n'est-ce pas une aventure intérieure personnelle avant tout. Et c'est pour ça. Et on voit enfin qu'il y a quelque chose de d'une grande profondeur, d'une grande humanité, qui au fond quelque chose là où vous auriez pu y laisser votre vie, qui vous a fait porter un autre regard au fond sur l'existence. Comme il y a des expériences qui à la base sont des traumatismes, mais qui peuvent au fond presque nous faire grandir, mais porter un autre éclairage sur la vie, sur le sens de la vie, sans être grandiloquent. Mais je pense que c'est pas partagé, enfin, justement, avec tout le monde, il faut déjà une certaine intimité dans le domaine du travail, parce que ce n'est pas non plus ce qui vous définit. Même si vous êtes, il y a un avant et un après, on l'entend bien. Et la Sophie que vous étiez avant, n'est plus celle que vous êtes aujourd'hui.
Oui.
Et on sent que ça vous a aussi fait évoluer, enfin, il y a développé une humanité, quelque chose que, encore une fois, que tout le monde ne peut pas faire, c'est pas donné à tout le monde.
Oui. Mais après, moi je...
Et après, effectivement...
Alors, à titre personnel aussi, je pense que pareil, c'est vrai que je m'en rends compte, j'en parle, hélas, en parlant aussi avec vous, c'est que c'est vrai que j'en parle systématiquement en fait.
C'est ça peut-être un peu qui pose question.
Je ne comprends pas en fait.
Oui. Parce que ça a eu de graves conséquences sur votre vie. C'est pas rien, alors que vous étiez dans un parcours, vous êtes une jeune maman avec des enfants, vous travaillez dans un milieu où tout se passe bien, vous aimez, puis la confrontation avec la mort, sa propre mort, on n'en sort pas indemne. Ouais, c'est un choc d'une violence inouïe. Ouais. C'est un point de bascule. C'est vraiment parce que vous avez vu, et c'est pas un mot, vous avez vu la mort en face.
C'est ça. C'est ça.
Bon. Et... Donc on n'en sort pas indemne. Et on voit bien que même si vous êtes sorti physiquement indemne, les séquelles psychologiques sont énormes.
Oui.
Même. Énormes. Donc je comprends que vous ayez besoin d'en parler. Et en plus, vous en parlez très bien. Maintenant, il y a peut-être encore un autre cap, c'est-à-dire, parce qu'il y a aussi celle que vous êtes devenue et qui, au fond, est-ce que je vous me, c'est peut-être le terme à vous, presque qui s'est enrichi de ce qui est, de cette expérience dont vous vous seriez bien passé.
Bah c'est ça, c'est exactement ça. Et quand je dis, alors ça peut aussi paraître bizarre hein, de dire j'ai donné un sens à tout ça. Et grâce à ça, en fait, j'ai pris des décisions aussi dans ma vie. Personnel et professionnel, oui. Parce que au final je voulais plus rester en banque parce que ça me correspondait plus et puis voilà, il y avait eu ça, donc j'avais besoin de tourner la page. Donc j'ai pris des décisions importantes.
Oui, oui.
Alors même voilà, j'ai divorcé, je suis pas partie à zéro, mais oui, je suis plus la même et je ne serai plus jamais la même.
Oui. Et oui, mais ça, je l'entends. J'entends qu'il y a, un avant et un après. Et il y a tellement à dire derrière, et vous l'exprimez vraiment avec beaucoup de justesse. Mais Brigitte dit, peut-être vous êtes encore, entre guillemets, un peu trop identifiée à ce traumatisme. Et je pense, et elle ajoute que ça signe d'une telle... ce que vous dites, c'est, il y a quelque chose de tellement intérieur, de tellement intime. Vous parlez aussi de vous à travers tout ça, que il faut pouvoir avoir des interlocuteurs qui sont à même d'entendre véritablement. Et tout le monde n'est pas à même d'entendre. Et ça serait dommage peut-être de, voyez, de, c'est-à-dire que vous, en fait. Il y a des choses qui sont tellement intimes, intérieures, qu'on ne peut pas en parler à tout le monde.
Oui.
Même si on en éprouve le besoin. Parce qu'à un moment, c'est presque, c'est comme si ça vous constitue, enfin, ou c'est, il y a quelque chose de très envahissant. Mais je pense, comme cette auditrice, Brigitte, que progressivement, vous en parlerez moins.
Oui.
À tout le monde, en tout cas. Vous voyez? Comme, c'est une phase.
Après, je rejoins, je vous dis, enfin, ce que vous me dites et ce que cette personne m'a dit très récemment. Et sur le coup, non pas que je l'ai mal pris, mais je me suis dit, mais ça fait partie de moi, je vois pas pourquoi je le cacherais. Mais au final, c'est pas caché, c'est juste que j'ai pas.
En fait, ça vous appartient.
Je devais me justifier.
Voilà, c'est ça.
En fait,
ça vous appartient et on ne parle. Bien sûr que ça fait partie de vous. Et que ça a. Ça vous a amplifié, enfin ça vous a c'est une expérience d'une tellement sidérante, tellement finalement vous l'avez transformé. Là pour le coup, le mot résilience est parfaitement adapté. C'est-à-dire de quelque chose d'effroyable, d'une vous l'avez vécu, la sensation de mort imminente. Et c'est quelque chose qui s'éprouve. Qui ne se pense pas, qui s'éprouve. Les gens qui ont vécu quelque chose de, où ils ont pensé qu'ils allaient mourir, qui ont vécu une agression et se sont dit, là, je vais mourir, c'est pas intellectuel, c'est physique d'abord. Parce que ça ne peut pas se penser sur le moment. Et tout ce que vous nous dites montre tout ce travail que vous avez dû faire, pour finalement toute cette énergie que vous avez dû déployer pour penser l'impensable et pour y donner du sens. Et votre survie aussi, elle est passée par là.
Oui.
Et donc c'est quelque chose de tellement profond, c'est un travail tellement intérieur que oui, d'abord ça vous appartient. Bien sûr que ça vous constitue, mais il y a des choses comme ça qui nous constituent, dont on ne peut pas parler à tout le monde.
Oui.
Vous voyez ? Parce que même si pendant un temps ça a fait partie de votre construction, il y a des choses qui sont d'une telle intimité qu'elles sont pas... D'abord parce qu'elles sont pas toujours partageables, pas toujours audibles. Non pas parce que vous n'êtes pas à même de l'exprimer, parce que vous le faites très bien, mais c'est l'autre est-il à même d'entendre, au fond ? Voyez, et quand on vous dit cela, cette où vous avez perçu qu'il y avait de la bienveillance, c'est-à-dire que c'est un moment, c'est une façon aussi de se préserver.
Oui.
Voyez. Pas parce qu'il y a lieu de cacher ou de taire, mais parce qu'à un moment il faut aussi se protéger, parfois d'une curiosité.
Oui.
À l'égard de quelque chose d'aussi, d'un événement aussi traumatique, aussi exceptionnel, et heureusement. Il peut y avoir une curiosité qu'on peut comprendre, mais qui au fond n'apporte rien de bon.
Oui, oui, oui. Et en fait, c'est en fait, alors autant il y a le côté où je me sens forte et où vraiment, voilà, j'ai fait un cheminement et je me dis
que... Ah oui,
que,
mais ça, vous pouvez vous sentir forte, oui.
Mais en même temps, il y a cette faille...
oui, bien sûr.
Qui se referme jamais, qui sera toujours présente. Et,
oui, mais
et,
vous
et...
en faites quelque chose. Dans les failles laissent passer la lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une expérience qui est difficilement communicable et je vous remercie de nous en avoir parlé parce que je trouve que justement, je suis admirative du parcours que vous avez fait pour trouver les mots, pour en parler avec une si grande justesse. Mais ce qui ne m'empêche pas de vous dire, vous voyez, pourtant on en parle à l'antenne, sur l'antenne d'RTL, d'aussi vous préserver. Et que vous, je comprends que vous ressentiez encore le besoin d'en parler. Mais pas à tout le monde, ça serait dommage.
Très bien, bah, merci beaucoup en tout cas Caroline, parce que ça m'a fait beaucoup de bien et cet échange était important pour moi, vraiment.
Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir partagé cela avec nous ce soir, Sophie.
Merci Caroline.
Et prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous.
Merci beaucoup.
Au revoir Sophie.
Au revoir.